Alors je suis avec les stagiaires, on est en fin de stage. Je suis avec Claude Semal qui est en train de nous a payé une bière ambrée pour en ce qui me concerne. Je remercie personnellement Claude. Alors Claude, tu nous as fait pas mal travailler finalement en 2 jours. Est-ce que tu fais toujours ça, nous fait travailler parce que vraiment tu voulais nous faire bosser?
Oui, en fait ce sont des petites choses qu'on apprend sur le terrain en faisant des chansons. Il se fait que j'en ai quand même écrit quelques dizaines, il y en a 150 qui ont été enregistrées, et donc on accumule une certaine expérience. Alors ce n'est pas très littéraire ou très cérébral, mais je crois que ça permet de transmettre certaines données de base, comme marier le rythme d'un texte et celui d'une musique, ou accorder une importance à sonorités de la langue française qui sont celles qui portent le chant et qui permettent ensuite de les chanter. Voilà, c'est peut-être 1, 2, 3 petites choses comme ça. Mais je pense que quand on les a en tête, même quand on est débutant, après on peut vraiment écrire une chanson qu'on puisse se mettre en bouche.
C'est un peu à l'image de l'exercice final que tu as fait avec les rimes masculines et rimes féminines que tu alternes, et tu composes un texte pour essayer d'enquiller les deux couplets. Je crois que c'est un procédé que tu as appris à l'âge de 18 ans, c'est ça?
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est faire le con pour un petit peu détendre les stagiaires. Après un exercice, après 2 journées quand même, on a tous travaillé et écrit, mais c'est effectivement un vieux chansonnier, enfin à l'époque il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire il était très vieux, qui avait fait ça pendant plusieurs années dans les cabarets à Paris, et qui m'a appris ça à 18 ans, mais un petit peu comme un magicien, un vieux magicien dévoile ses trucs à un jeune, et c'était effectivement un numéro qu'il faisait en cabaret. Donc il demandait au public de lui donner des rimes, il les écrivait sur un tableau, et puis immédiatement avec le pianiste à côté de lui, il improvisait une chanson, et ça avait l'air magique et complètement impossible à faire pour donner au fit ou pour des gens qui ne savent pas ce que c'est une chanson. Et puis voilà, mais en fait quand on le fait et qu'on a un petit peu de pratique, c'est pas plus difficile que d'improviser un texte quand vous demandez une demi-livre de poisson chez le poissonnier. On est tous des improvisateurs de paroles. Encore faut-il utiliser, disons, ces paroles, dans cette capacité à parler et à inventer le langage dans un cadre donné, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on a fait.
Ça a été un déclencheur par rapport à la magie, quand tu parles de magie, avec cet exercice, pour prolonger, ou tu avais déjà commencé à écrire à l'époque?
Non, j'étais là précisément parce que j'écrivais des chansons. Moi, j'étais d'abord un passionné de chansons qui écrivait, qui écoutait les chansons des autres. Quand j'avais 14 ou 15 ans, j'écoutais certaines chansons en boucle, que comme des adolescents peuvent aujourd'hui les entendre des dizaines de fois. Moi, c'était Brassens surtout, mais aussi Boris Vian, un certain nombre d'autres, les premiers Dylan, pour parler un petit peu de la chanson anglophone aussi. Puis c'est de tout ça que je me suis nourri. La poésie aussi un petit peu, enfin un peu Prévert, des choses comme ça. Et puis, très vite, à partir de 15 ou 16 ans, j'ai commencé à écrire mes petites chansonnettes. Ma maman écrivait des chansons aussi. Elle était fort influencée par Anne Sylvestre, et puis les chansons populaires, les vieilles chansons populaires françaises, les chansons du scoutisme, genre Colchic dans les prés. Vous savez que c'est une des chansons. La madame qui écrit cette chanson est un des auteurs français les plus diffusés. Et puis voilà, elle est elle-même l'héritière de toute une tradition de chansons françaises qu'on chante aux vieillés ou qu'on a tous quelque part dans un coin de notre tête. Et ma maman écrivait des belles chansons, donc j'écris mes premières chansons sur sa guitare.
Tu nous as parlé de la répétition, que beaucoup c'était pour, disons, former une chanson, il y avait des répétitions de mots, de sens, de sons, et tu as un peu détaillé tout ça. C'est des choses que tu as remarquées au fur et à mesure de ta pratique, ces répétitions dans tous les sens du terme?
Au départ, moi je suis autodidacte, dans la mesure où quand j'ai commencé à écrire, comme mes glorieux prédécesseurs, il n'y avait pas d'école de chansons, il n'y avait pas d'atelier d'écriture, tout ça n'existait pas. Donc tu commences à prendre les choses un petit peu sur le tas, effectivement parfois avec des manuels de poésie, mais qui sont très classiques et pas vraiment adaptés à la poésie, qui est quand même quelque chose de plus souple. Il y a l'oralité, il y a le fait qu'on est plus proche de la langue parlée. Alors il y a des chansonniers qui ont fait ça, je ne sais pas, quelqu'un comme Coutet par exemple, qui est un des... un des pionniers de la langue populaire, disons, celle qui était proche des paysans, celle qui était proche de l'argot, celle qui était proche des parlers populaires et de l'oralité, celle qui s'accroche le plus au conteur plutôt qu'à la culture entre guillemets officielle, a donné une base à cette langue-là, à une langue qui est plutôt parlée. Et puis évidemment, bon, de ma génération, il y a des gens qui ont repris ça. Il y avait les chansons de Bruant, par exemple. Hein, toutes les chansons des cabarets, du Chat Noir, ce genre de trucs-là. Donc ce rapport aux textes qui sont dits devant un public, qui ont été repris, embellis, enrichis, après ça, par des gens comme Renaud et quelques autres. Et c'est un petit peu dans ce courant-là que moi je me suis inscrit, à la fois cette tradition de la chanson de cabaret, de la chanson populaire, et à la fois aussi de ce qu'on appelait le protest song, la chanson revendicative.
Bob Dylan.
Oui, Bob Dylan, que moi j'ai perçu traduit en français par un certain nombre d'auteurs, mais interprété par Hugo Frey,
oui.
Qui aujourd'hui est plus célèbre pour ses recettes de longévité, comme à rester beau et jeune à 85 ans avec une alimentation géniale, oui, qu'au niveau de ses chansons. Mais moi, ces chansons, je les ai vraiment beaucoup appréciées. Tu vas me dire, c'est normal, c'était Dylan. Mm. Mais elles étaient bien adaptées, bien chantées. Et c'était... Voilà. Hugo Frey faisait partie de ces chansons que les jeunes pouvaient chanter à la guitare autour d'un feu de 10 mois. Céline, les années ont passé, on est tous passés par là.
Ouais.
Et donc, mes premières chansons, je les ai aussi chantées comme ça, dans un milieu, entre guillemets, de jeunes qui chantaient autour des feux de camp.
Sans l'oignon, la burger, le graillon, jusqu'au cœur de son chignon. Ça sent la graisse à écœurer les frites. Elle qui n'avale jamais des trucs hypocaloriques. Elle vend des choses emballées sous cellophane aux touristes hollandais dans sa caravane. Bronzer les bras aux tomates ketchup. Tu parles d'un plan pour une pin-up. Jamais personne n'a vu qu'elle était belle, sauf un connard qui la drague en opel, qui fait marcher ses phares chaque fois qu'il passe, en faisant des tours autour de la place. La jeune fille de la friture sous les néons gras se fait du cinoche en choucroutant les chiens chauds. C'est pas la plus moche du scénario. Après minuit, c'est Fellini qui débute. Elle est la seule ouverte sur la place avec les putes. Elle bosse face à face, mais pas une s'imagine pour tout l'or du loto dans l'autre vitrine. Vapeur de graisse, elle attend que son destin la reconnaisse.
tu nous as fait écouter quelques-unes de ses chansons, dont une qui sur l'album Ode à ma douche, qui est avec cette fille qui sent la friture, en fait. En fait, c'est beaucoup plus poétique que ça, parce que je dis une fille qui sent la friture. C'est plus un peu dans l'axe de Taïeh Mazom de Souchon. C'est une fille qui est belle, mais qui sait pas, on ne sait pas trop qu'elle est belle parce qu'elle est dans un contexte professionnel qui la met pas trop en valeur, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est ce côté concret et trash d'essayer de trouver une sorte de poésie dans le quotidien, d'essayer de voir la beauté des gens derrière parfois la laideur ou la fatigue de leur travail. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire, c'est partir du concret, soit pour aller vers le rigolo, parce que la moitié de mon boulot c'est quand même faire ça, soit pour aller du côté de l'émotion, de la beauté des choses, parce que voilà, mais toujours en partant du concret et du quotidien et de ce qu'on vit les uns et les autres à travers nos métiers, nos amours, nos émotions, et puis les grands thèmes entre guillemets qui traversent toute la chanson, toute la musique populaire, c'est les naissances, les amours et le deuil et la mort, enfin toutes les grandes questions entre guillemets métaphysiques, mais qui sont traitées à travers la chanson de façon plus légère et plus populaire, de ce que j'appelle dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent être partagés par tous. C'est une forme de, parfois de, comment dire, si on réfléchit à ça, quoi la religion a pu avoir servir, une espèce de liturgie comme ça qui nous permettait de partager des moments d'émotion ou de passer ensemble des moments importants dans nos vies d'hommes et de femmes, dans une société qui est laïcisée et dont la religion a souvent été exclue, il faut trouver des choses qui puissent remplacer ça. Et une de ces choses-là, je pense, c'est de façon plus générale la culture, et en particulier la musique et la chanson. J'ai écrit une chanson que vous avez peut-être entendu si vous avez assisté à mon concert, qui s'appelle « Je retourne d'où je viens », qui est une chanson qui parle de la mort. Et deux mois après que je l'ai écrite, j'ai un copain proche qui a perdu sa femme et qui a passé cette chanson-là à la crémation. Et je trouve que quand on écrit des chansons qui peuvent être... qui sont sur les cartes que les gens voient pour la naissance de leur enfant, ce qui m'est déjà arrivé, ou quand on écrit des chansons qui peuvent être chantées aux cérémonies des enterrements, ce qui m'est déjà arrivé quand même 4 ou 5 fois, c'est sans doute qu'on touche à des choses à la fois intimes et universelles qui sont importantes pour les gens.
C'est un peu le sens du sacré, mais laïcisé, quoi.
Ouais, avec quand même le gros bémol que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que quand je parle comme ça, j'ai l'air d'être un espèce de curé laïque, alors que par ailleurs, j'ai quand même dit et fait énormément de conneries dans ma vie, tu vois, le côté caca-prout, où j'assume pleinement aussi. Donc, mais justement, la chanson permet d'avoir à la fois ce côté bouffon, léger, et à la fois pouvoir aborder des questions qui sont plus profondes.
D'ailleurs, tu utilises ces mots crus aussi, mais tu utilises aussi des mots, enfin, des chansons plus posées, plus profondes, quand je pense à la chanson de Kamel, qui est d'ailleurs beaucoup plus longue, qui essaye d'approfondir un peu ce que ce Kamel vit au quotidien. Et donc, c'est aussi une autre dimension, hein, côté chansonnier que tu as aussi.
Oui, enfin, je ne sais pas si elle est plus profonde, parce qu'encore une fois, elle part tout à fait du quotidien. Là, il se fait que j'avais un copain qui s'appelait Kamel, et la seule chose que j'ai fait dans cette chanson, c'est, après avoir discuté avec lui, raconter sa vie, raconter comment il était venu en Europe et la façon dont il vivait les choses aujourd'hui. Mais je pense que si on essaye d'aller vraiment à la rencontre des gens et d'essayer vraiment de rendre compte de leur vécu, il y a toujours un moment où ce vécu particulier rencontre le vécu universel de tout le monde. C'est en parlant de façon intime de soi et des autres, qu'on arrive, je pense, à une certaine forme d'universalité. Si tu essayes d'emblée d'aller dans le général, il vaut mieux écrire des articles que des chansons, quoi.
Il a remonté toute l'Italie, entre les camions et les oliviers, avec son vieux costume de scout. Même les flics et les routiers s'arrêtaient. au fond de son sac à dos, des boîtes de sardines, de peinture à l'huile et 10 kilos de biscuits préparés par sa maman. Encore l'été, c'est la France. Ce soir, au fond d'un caboulot du port de Nice, il dit je cherche du boulot. Une heure plus tard, il charge une brouette de mortier, nourri, logé sur le chantier, entre la mer et le dépôt d'immondices, à 10 dans un gourbi pourri, sans compter les rats et les fourmis. L'Europe est belle, et pour mon copain Kamel, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, il n'a pas décollé les deux mains du manche. La douche au soleil le dimanche, avec le tuyau de la bétonneuse, un vieux maçon pendant la pause lui a dit petit, ne reste pas dans ce pays. Dès qu'il a pu, il s'est payé un billet du train de nuit pour Paris. Premier matin, gare de Lyon, premier métro jusqu'à Montparnasse, bienvenue. Pour retrouver l'ami d'enfance, monté bosser 5 ans plus tôt dans les frigos. Quand son copain l'a reconnu, il a pleuré, son père mort sans l'avoir revu. Puis ils sont partis en riant, manger des frites au métro Saint-Michel. L'Europe est belle, pour mon copain Kamel. Au 17h, rue d'Odessa, il dort entre le lit divan et le frigo. Un soir, il apprend le dessin, un jour, il apprend par cœur le plan du métro. Au bout de ligne de banlieue, sans carte de travail, il n'y a pas de chemin. Il dit qu'il croit qu'on le regarde, comme s'il marchait une bougie à la main. 3 mois sans trouver de travail, à user l'eau, tonner son cœur et ses chaussures, à manger tout seul au comptoir, les 6 enveloppes de ses pays de la Côte d'Azur. Un matin, c'est déjà l'hiver, il a repris son sac à dos, il n'a rien dit. Mais il est monté plus au nord, toujours plus haut, jusqu'à Bruxelles midi. Et l'Europe est belle, pour mon copain Kamel. Dans Underleg, dans un hôtel, il met ses derniers sous dans une chambre à la semaine. Il a cousu dans sa chemise un billet neuf pour payer le ticket du retour. Sur le reste, il économise un carton de lait avec un demi-pain par jour. Le soir, pour éviter les rafles, il peint tout seul les plages de Tunisie. Quand il boit de l'eau dans ses mains vides, il dit voilà, je tiens encore 3 jours. Voilà, c'est terminé. Le lendemain, il déniche une place de plongeur. 8 jours plus tard, il trouve un job en or avec de vrais papiers sur un chantier. Même s'il latex sur le giproc, ce soit pas vraiment la peinture dont il rêvait. L'Europe est belle, pour mon copain Kamel. Ça fait 10 ans qu'il vit chez nous, mais son copain vend des frigos près de Gabès. Chez ses parents en Tunisie, il y a la sono du Mouetzine dans la cuisine. Il sait faire tout, même au climat, même si les mots sur les affiches parfois le blessent. Il évite seulement les bistrots où les serveurs ont les avant-bras tatoués. Dans sa vieille casserole à pression, il fait chanter le mouton jaune pour les amis. On lui a fait goûter l'alvenanf et la faro qui sent la bière et la cerise. On parle du Coran, de la crise, de cette chanson que j'écrirai pour lui. Puis on ne dit plus rien car on sait qu'on vit coincé entre Le Pen et Khomeini. Et l'Europe est belle, pour mon copain Kamel. Il a monté toute l'Italie, entre les camions et les oliviers. Avec son vieux costume de scout, même les flics et les routiers s'arrêtaient. Au fond de son sac à dos, des boîtes de sardines, de peinture à l'huile et 10 kilos de biscuits préparés par sa maman. Et 10 kilos de biscuits préparés par sa maman.
Tu as été aussi journaliste, alors c'est une expérience de journaliste qui te fait dire ça, j'imagine.
Oui, enfin, j'ai jamais été vraiment un vrai journaliste, entre guillemets. J'ai pas fait d'études de journalisme. Je suis encore plus autodidacte là-dedans que dans la chanson ou dans le théâtre. Mais j'ai participé, disons, surtout à une expérience de presse militante au début des années 70, comme on dit en France, au moment où un journal comme un quotidien comme Libération est né en France. On avait créé en Belgique un hebdomadaire qui s'appelait Pour, qui était à peu près dans le même créneau, c'est-à-dire un journal progressiste et militant qui parlait des luttes, qui parlait du quotidien des gens. À partir du moment où la grosse majorité, entre guillemets, de la presse était déjà, hier comme aujourd'hui, aux mains du capital ou des 7 ou 8 milliardaires qui contrôlent aujourd'hui 90% de la presse, ce qui excluait de fait de la presse toute une partie du quotidien et du vécu des gens. Donc on a fait un journal qui essayait de parler de tout ça. Et pendant 5 ans, je suis devenu un militant professionnel, j'ai arrêté de chanter. Mais ça m'a permis de rencontrer des tas de milieux, des tas d'expériences professionnelles, de faire le tour de la Belgique des luttes, de rencontrer des paysans, de rencontrer des putains, de rencontrer des ministres, de rencontrer des enseignants, de rencontrer des agriculteurs. Des tas de gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais resté dans mon petit grenier de petit bourgeois bohème qui avait lu Baudelaire et qui voulait parler de son nombril. Donc,
tout ça, tu l'as fait rentrer dans tes chansons, j'imagine.
Je suppose que dans une certaine mesure, tout ça se retrouve dans ce que j'écris aujourd'hui, y compris le petit bourgeois bohème qui avait lu Baudelaire.
Alors j'ai aussi les stagiaires qui sont autour de moi, j'ai Amélie Les Crayons à côté de moi qui m'a aidé à entonner la mélodie de En Cloque, parce que je détonne assez facilement. Et donc si je pose une question à tous, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus comme exercice, ou Amélie, qui te marque le plus sur ces deux jours?
Alors moi j'étais complètement novice, donc c'est tous les petits trucs dans la construction d'une chanson, dans des repères, les rimes, les pieds, les sonorités, enfin c'est toutes des petites choses qui du coup aident aussi à construire une chanson. Tout ce qui est évolution aussi, donc partir raconter une histoire un peu, donc la faire évoluer jusqu'à la fin, jusqu'à une chute, enfin voilà, c'est un peu tout ça que j'ai appris.
Le fil du temps, hein, quand il nous explique qu'il faut partir d'un début. Et ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que Jacques Brel utilisait le temps passé pour une strophe, le présent pour une autre, et le futur pour avoir 3 temps différents, et donc forcément une ligne du temps. Je vois au loin Evelyne qui a fait des super chansons, je vais m'approcher d'elle parce que je suis un peu loin. Toi, on te connaît déjà à Didouda parce que tu chantes déjà, tu interprètes déjà depuis longtemps. Et donc, quel était l'apport de ces stages? Si tu veux, retiens un exercice particulier, peut-être le dernier, où tu as particulièrement brillé.
Je ne sais pas quoi dire. En fait, j'ai fait le stage parce que quand je viens à Didouda, fête de la musique, comme je viens de Montreuil, je reste là toute la semaine et je fais des stages parce que ça me nourrit. Et Claude Semal, je le connaissais déjà, j'adore. Et donc l'exercice, je ne sais pas quoi dire. Enfin, on a fait beaucoup. Ça a été très, très productif. Les infinitifs, par exemple, les verbales infinitifs, j'avais jamais tenté le truc et j'ai trouvé que ça marchait pas mal. Voilà, après, je ne sais pas.
Et Martine, toi qui es aussi interprète, tu as fait une belle adaptation de Saint-Max, c'est ça, de Leprest, en changeant les paroles, et c'était pas mal. J'imagine que c'est ça que tu vas retenir, ou autre chose?
Moi j'ai vraiment aimé les mots, toute cette liste de mots assez curieux et intéressants. Et donc du coup l'assemblage de ces mots, ça peut faire des textes très intéressants, avec des consignes comme ça, des contraintes, voilà.
Pierre, toi, t'es un professionnel de la profession. Il t'anime même des ateliers d'écriture, il paraît, du côté de Doulan, hein, c'est ça?
Oui, à Beaucaine, dans les Hauts-de-France également, d'ailleurs. Mais en Picardie, là, où, voilà. Pour parler des ateliers de ces ateliers, oui, l'importance qui est mise sur les accents toniques, par exemple, dans les chansons, pour structurer la chanson, la différence par exemple avec le slam, c'est très intéressant ça, et aussi ce qu'il y a souvent dans les ateliers d'écriture, c'est qu'on se nourrit aussi des mots des autres, de tous les participants.
Listes qu'on a eues, là.
Voilà, oui. Après, quand quelqu'un donne des mots d'une liste, on dit tiens, j'ai oublié celui-là, tiens, et puis après tu trouves un mot voisin.
Oui, c'est ça.
Voilà, de toute façon, un mot te fait penser toujours à une foule d'autres.
Ouais.
Voilà. Et puis en même temps, on espère que nos esprits ouverts ont pu donner des idées de chansons en plus à Claude Semal.
Merci à tous. Merci à Maryse aussi qui a super bien chanté, mais je vais pas l'embêter. Là, je vois qu'elle a mis ses lunettes noires, tout ça. Bon, on va arrêter là.